Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
C'est vraiment des montagnes russes. Et faut tenir, faut y arriver, même si t'as l'impression que le succès arrive pas tout de suite, qu'il arrivera jamais, faut tenir. Et je crois que c'est ça le plus dur. C'est pas d'écrire, c'est pas de créer des blagues, c'est pas de monter sur scène, je crois que c'est de continuer à le faire, même quand ça marche pas.
Nouvel épisode des gens qui doutent avec l'humoriste GC. Alors GC, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on est très amis. Il a commencé par être mannequin, puis comédien au cinéma et au théâtre. Il a notamment joué dans Les Infidèles, Yves Saint-Laurent et la série Versailles. Et puis au moment du confinement, il s'est lancé dans l'écriture d'un premier spectacle, Message personnel, qu'il a joué à la Petite Loge, puis au Théâtre du Marais. Et il sera dès la rentrée au Petit Palais des Glaces. C'est un spectacle formidable dans lequel il parle d'amour, de filiation. Il y raconte son schéma familial un peu particulier, puisqu'il a un père, une mère et un géniteur. Il aborde également le harcèlement scolaire dont il a été victime parce qu'il était considéré comme trop maniéré. Et donc je suis très heureuse qu'on ait pu faire cet épisode ensemble. On a beaucoup ri en l'enregistrant et on s'est parlé de plein de choses. Du fait de fantasmer très fort la vie en ville quand on vient de la campagne comme nous, de tout ce que lui a apporté le stand-up, des dates qui se passent mal et du fait que le plus dur dans ce métier, c'est de continuer quoi qu'il arrive, de la peur de s'enfermer dans certaines thématiques, du fait qu'on ait dû accepter que ni lui ni moi, on ne sera jamais les personnes les plus drôles dans une soirée de stand-up et c'est pas grave. Et puis il m'a raconté la fois où il s'est empêtré dans un immense mensonge qui allait tellement loin qu'il a dû changer de ville. On s'est énormément taillé dans cet épisode. Voilà, notre langage de l'amour à nous, c'est de s'insulter mutuellement jusqu'à ce qu'un des deux fasse un breakdown. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, tu peux parler?
Oui, je peux parler, tu m'entends là, comme ça? Faut que je parle mieux, faut que je parle plus fort.
Faut que tu parles, là je pense que tu vas parler un petit peu plus fort, là c'est parce que tu n'as aucun engouement et aucune envie de vivre.
Oui, c'est vraiment ça. Mais maman.
Dimanche matin, ok, j'ai pas école.
On me travaille dimanche matin. Mais il va me manger ton chat.
C'est toi qui m'as sucé pour venir dans le podcast là.
J'ai rien demandé moi, je savais même pas que ça existait ce podcast.
C'est quoi?
Je peux même pas faire des phrases.
Ça va, Jessie?
Je vais te frapper.
Je vais faire toute l'intro en disant je reçois Jessie, c'est mon meilleur ami.
Oui, ça va. Et toi?
Tu préfères que je dise Jessie? Les gens se trompent souvent.
Tout le temps. Non, c'est vrai, je te jure. Ils disent Jessie.
Jessie.
Oui.
Ça fait un peu de la street, quoi.
Ouais, mais quand j'étais petit, je voulais que les gens ils m'appellent Jess.
Jess.
Parce que j'aimais pas GC, parce que je voulais venir d'une série américaine, bien évidemment. Ah. Et du coup, mes parents, ils pétaient un câble, parce que tous mes copains et mes profs et mes maîtresses, et quand il y avait les réunions parents-profs et tout, ils disaient donc Jess. Et j'étais là, qui ça? Pardon? Et j'étais là, ben oui, non, je sais pas, ils prononcent mal, j'y peux rien.
En plus, Jess, ça fait très charmède.
Ouais, bah, et puis ça fait un peu cassos aussi. Hein.
Ouais,
quand t'es un Français que t'appelles Jess, un garçon, il y a un côté un peu Brandon,
ça
tout
vient
ça,
de
quoi.
Jessico.
Jessico. Jessico. Ça fait un peu mexicain.
Jess mexicain?
Non, Jessico.
Ah, Jessico, ouais.
Jessico de Rio. Ce qui n'est pas en Mexique d'ailleurs, qui est au Brésil.
Oh, wow. Ben voilà, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. J'avais juste besoin de montrer que t'étais teubé. Que t'es mon quota teuteux.
Le masque tombe en littéralement deux phrases.
Tu t'es mis dans tout seul.
De l'esbrouf.
Ouais.
Oh là là.
C'était comment hier à Bruxelles ?
Ben, j'ai joué dans un comedy club qui s'appelle le Kings. Je sais pas si tu connais.
Ouais.
C'est vraiment un bouge. C'est vraiment... Je sais pas qui tient ce rad, mais... Non, c'était vraiment chouette. Mais franchement, on m'avait dit que le public belge était le meilleur du monde.
On t'avait dit ça de Lille aussi.
Et on m'avait dit ça de Lille. Plus jamais je mets un pied à Lille, en fait. Et que ce soit bien clair entre toi et moi. Et Lille, c'était l'enfer. Et Bruxelles, incroyable. C'était génial. C'était trop bien. En plus, c'est la première fois que je jouais deux fois de suite. Mmh. 19h, 21h. Et en fait, c'était, j'avais peur à 21h de me perdre un peu, de me dire, attends, est-ce que ça, je l'ai déjà dit? Attends, non, est-ce que je l'ai déjà dit à 19h, en fait? Et en fait, pas du tout, vu que je suis un grand professionnel. Et j'ai regardé mon texte que 17 fois. Et non, c'était trop bien. Et le lieu, il s'y prête vachement à l'écoute. Les gens, tout le monde est proche. Donc ça, c'est bien, la différence du spotlight à Lille, où c'est un espèce de grand couloir et où c'est très dur d'avoir les gens au fond parce que la salle, elle est très profonde. Donc j'avais des amis qui s'étaient installés au fond et qui m'ont dit, bah, en fait, on n'était pas inclus. Mmh. Et au Kings, non, tout le monde est inclus, c'est trop sympa. Et puis les gens, ils sont bonne vibe et tout. Et j'ai pris une petite première partie aussi. Mmh. Une petite Clémence.
C'est la première fois que tu avais une première partie.
Oui, c'est la première fois. Et ça s'est très bien passé. Mais non, mais j'ai des angoisses où je me dis, oh, mais si tu prends une première partie, déjà le spectacle il est un peu long, ça va prendre du temps. Et puis toi t'as ton micro, t'as ta scénographie, la première partie, si ça se trouve ça va pas lui aller, elle va pas pouvoir évoluer là-dedans. Donc j'ai des angoisses nulles. Et en fait c'est vachement bien d'avoir une première partie. Et en plus bah t'es pas seul, tu vois. Quand tu viens avec quelqu'un et tout ça, c'est cool parce qu'on fait un métier quand même, on est tout le temps seul. Et quand t'as une première partie, bah ça peut, mais c'est gaulerie quoi, c'est cool.
Ouais, surtout toi, t'as pas de régisseur qui t'accompagne, non. Donc c'est cafard quoi.
Franchement, il y a des dates où ça peut être très cafard.
Surtout que genre là à Lille, si ça s'est pas passé hyper bien, genre tu rentres à ton hôtel, tu regardes Nagui.
Alors non, parce que tout le monde regarde pas Nagui quand il se sent mal.
Ah non,
on
c'est
pas
parce
tous
que t'as refusé dans l'émission, c'est ça.
Oui, c'est pour ça. Mais depuis, je gratte à la porte de tous mes amis. Mm-hmm. Donc Morgane Cadignan, Alexandre Kominek et même mes ennemis, Fanny Ruette. Mm-hmm. Et bon, je me dis qu'un jour...
T'as dit quoi,
là ? Même mes ennemis.
T'as dit Ruette ?
Ruette. Bah, c'est Fanny Ruette.
Tu sais toujours pas dire mon nom, je suis dégoûtée.
Parce que toi, tu m'appelles comment ?
Je vais t'appeler Jessie.
Tu m'appelles Jessie ?
Jessie.
Putain, c'est Fanny. En plus, tu sais qu'on me l'a dit plein de fois.
Quoi ?
Fanny Ruette.
Bah ouais. Ah, tu pensais vraiment que ça se disait Ruette ?
Bah, moi, j'ai toujours dit Ruette.
D'accord. Non, ouais, non, donc c'est cafard des fois.
Bah oui, parce que t'arrives et quand ça se passe pas bien, bah après t'es un peu tout seul avec ton seum, quoi. Et t'es là dans un appart bah, où t'es pas chez toi, donc en général t'y passes une nuit, donc t'as pas le temps de te l'approprier, t'as ta valise qui est encore, que t'as pas enlevée, et ouais, t'es là. Heureusement, j'ai une super productrice à qui je peux envoyer
coucou,
des messages.
Coucou, j'arrête le métier, ma belle. Moi, j'ai l'impression que la moitié des messages que je leur envoie, c'est ça.
Ah ouais, mais moi, franchement, moi aussi quand j'ai fait Montreux en novembre, on avait des passages avant pour tester un peu, tu vois, pour, et donc on avait trois comedy clubs, j'ai pris trois fours, mais un par un. C'est-à-dire que le premier, je dis, c'est normal, faut que je me mette dedans. Le deuxième, je dis, ah, c'est le public suisse, voilà, faut le temps qu'il m'apprivoise. Le troisième, je me suis dit, t'es une merde, en fait. C'est vraiment une merde. Et j'ai envoyé un message. Et le lendemain, c'était Montreux, le gros gars, là. Et c'est censé te donner de la force, les trois trucs avant, pour te dire, j'arrive, je suis fort, je suis prêt. Moi, ça m'avait fait exactement l'inverse. Et donc, j'ai envoyé un message à Émilie. Et j'ai dit, en fait, je vais pas faire Montreux, on arrête, c'est pas fait pour moi et tout.
Et t'y croyais quand tu disais ?
Ouais, de ouf.
Okay.
Ouais, ouais, et elle a dit non, mais arrête, tout le monde est passé par là. Elle m'a raconté des anecdotes de gens qui aujourd'hui cartonnent et qui ont parfois eu aussi des bides et où ça a parfois été difficile. Et l'important, en fait, c'est d'essayer de dépasser ça. Mais putain, c'est dur. C'est dur parce que quand tu te dis trois fois ça n'a pas marché, mais pourquoi la quatrième ça marcherait ? Pourquoi ça va changer ? Non, c'est bon, arrêtons, n'allons pas au carnage. Et elle était là, non, mais pas du tout, ça va changer, tu vas voir. Déjà, le gala de Montreux, c'est 2000 personnes, alors que les comedy clubs qu'on avait fait, c'était 40, 60. Et ça s'est super bien passé.
Puis Montreux, ça coûte cher. Hein. S'ils payent 90 francs, ils sont là pour rire.
Je te jure. Et non, ça s'est trop bien passé. Et du coup, ça apprend aussi. Pareil, Lille, tu vois, tu ressors de cette date, tu peux dire, oh là là, mais pourquoi je fais ça ? Et puis après, tu fais Bruxelles, et les deux sessions se passent super bien, et donc tu te relances, et puis après, la semaine prochaine, ça se trouve, à nouveau, ça va mal se passer. Et c'est un peu tout le temps ça, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment des montagnes russes. Et faut tenir. C'est ça le... Faut tenir, faut y arriver, même si t'as l'impression que le succès arrive pas tout de suite, qu'il arrivera jamais, faut tenir, faut continuer, faut s'accrocher. Et je crois que c'est ça le plus dur. C'est pas d'écrire, c'est pas de créer des blagues, c'est pas de monter sur scène. Je crois que c'est de continuer à le faire, même quand ça marche pas. Je crois. C'est hyper profond tout ce que je dis et je trouve que c'est pas reçu à sa juste valeur par ton regard bovin.
Je suis hébété. Non, ouais, c'est dur parce qu'en soi, en fait, des gens marrants, il y en a énormément.
Plein.
Mais des gens qui sont marrants et qui taffent ce qu'il faut et qui sont prêts à faire ça longtemps, c'est rare. Hein.
Mais oui, c'est rare. Et il faut être de ceux-là. Et parce qu'être marrant, c'est bien, mais si t'es marrant et que tu travailles pas, je crois que c'est difficile quand même d'y arriver. Si t'es marrant et que tu travailles, c'est difficile, mais il faut être marrant, travailler et s'acharner. Je trouve.
Et être beau gosse.
Bah non.
Tu trouves pas ?
Bah regarde, toi t'as réussi.
Bah j'ai pas percé. Hein. Donc non, même pas. Ah, je sais pas.
Je crois pas que dans l'humour ça aide. Je sais pas.
C'est vrai que dans l'humour c'est peut-être celui où ça aide le moins.
Je sais pas, parce que tu montes sur scène et les gens, déjà, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il va nous raconter d'intéressant ?» Il y a un peu un truc comme ça. Des fois, je pense à des mecs un peu de l'humour et tout. « Qu'est-ce que je trouve genre grave beau et tout ?» Et franchement, il y en a deux, trois, mais pas tant. Tu vois, c'est pas un métier comme les acteurs où tu te dis « Putain, ils sont trop beaux et tout. » Malheureusement, donc bon, je couche avec des moches. C'est pas grave. Mais toi, c'est un peu ton quotidien, du coup.
De coucher avec des moches ?
Ouais.
Non, moi, c'est justement... En fait, moi, l'avantage quand t'es chum, c'est que tu vas toujours au-dessus de ta ligue.
C'est vrai.
C'est ça qui est très beau. Non, en parlant de BG, en regardant des trucs sur toi sur Internet...
Qu'est-ce que t'es allé dénicher ?
Non, mais disons, en fait, j'étais hyper surprise parce que moi, je te connais depuis 3 ans.
Ouais, ouais.
Et donc, tu faisais du stand-up et donc, t'étais déjà très dans cette vibe-là. Et là, je suis tombée que sur des trucs où t'es cassos. C'est genre l'époque où t'étais comédien, t'es là, vas-y, je bosse avec Lancôme, je fais des trucs.
T'as retrouvé tout ça.
Et t'avais l'air tellement superficiel.
Ouais.
Mais genre la dose, quoi. Et j'étais jeune,
j'avais une vingtaine d'années, tu vois. J'avais 20. Enfin, ouais, c'était à 8 ans, je pense.
Ouais, mais t'avais l'air de sortir de Gossip Girl.
J'ai eu une grande période Gossip Girl. Attends, faut que je te raconte. Donc, j'étais vraiment fan de Gossip Girl. J'ai vécu à Londres pendant un an. N'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? À Lyon.
Oh, waouh, c'est vraiment quoi. Pas la même.
Ben non. J'ai vécu à Lyon pendant un an et, pour faire mes études. Et on s'est embourbé dans un mensonge avec ma meilleure amie avec qui je vivais à l'époque. On regardait tellement Gossip Girl qu'un soir, on a voulu sortir en boîte. Et son personnage, c'était Blair. Et moi, j'étais Nate, le frère de Serena Van Der Woodsen. Et on arrive dans une boîte. On est super sapé et tout. Vraiment, on a tout donné. Et on nous dit non, c'est pas possible de rentrer. Donc on est dépité, on va dans le bar accolé à la boîte, qui est un peu le bar où les gens font leur before avant d'aller dans la boîte. On rentre, on boit un verre, et on se met à la table, à notre petite table, à parler en anglais. Parce qu'on est des connards, en fait. Mmh. Et donc on parle anglais, et là arrive le serveur qui dit « Ah, mais vous êtes anglais et tout !» Et nous on est là « Yeah !» Et vous êtes d'où ? À New York, et on fait les études ici. Et donc ça part comme ça.
Attends, déjà, vous êtes anglais, mais vous venez de New York.
Américain, on est américain. Pardon. On est américain. Excuse-moi, Jessica Fletcher. Donc on est américain. Et donc ça part dans un truc avec le serveur où on joue le jeu et tout. Genre, on est américain, on vient de New York, machin, on est là pour les études. Il dit, mais non, truc de ouf et tout. Sauf que c'était le fils du patron de la boîte. Et qui nous a dit, et donc on lui raconte qu'on n'a pas pu rentrer, mais nous, là, on pense qu'on parle au serveur, tu vois, et qu'on va jamais le recroiser, qu'on viendra plus dans ce bar. Et on lui dit, bah oui, on n'a pas pu rentrer dans la boîte, ils nous ont dit non, et tout. Il dit, quoi? Ils vous ont dit non? Attends, et tout. Nanani, nanana. Il nous fait il va discuter avec les videurs, il va discuter avec les gens de la sécu. Ils nous font rentrer dans la boîte, sauf que ils nous invitent à leur table. Donc, pendant 4 heures, de soirée, on doit faire, on est américain, on rencontre de plus en plus de personnes à qui on doit dire qu'on est New-Yorkais américain, ça
attends,
commence à être hors de contrôle.
Tu parles même pas anglais de ouf.
Mais si, à l'époque si, mais même si. Si, si.
Ah ouais, ouais. Moi je pensais que t'avais un niveau normal quoi.
Non, 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 franchement.
Parce que pour faire semblant d'être natif, faut solide. Hein.
Bah, mon angoisse c'était de croiser un américain, un vrai. Parce que là, c'était des gens de la night, tu pouvais les laisser de l'esbrouf, tu vois. Sauf que du coup, on finit la soirée, on a donné notre numéro à tout le monde, on était bourrés, n'importe quoi. On rentre, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait et tout. Faut jamais qu'on y retourne, machin. Sauf que le lendemain, évidemment, on a des messages. Ouais, faut que vous reveniez et tout. Et pendant un an, on a été pris dans cet engrenage où dès qu'on sortait dans cette boîte, on était américains, sauf qu'après, ils ont fait des apéros chez eux, ils nous ont invités à des week-ends, donc on allait à des week-ends, on faisait des apéros chez des gens où à chaque fois des nouvelles personnes venaient, et à chaque fois on était américains, et mon angoisse c'était de croiser des gens de la fac à ce genre de truc, et qui disent, bon, lui il est pas américain, il est de Dijon. Et donc pendant un an, et on n'a pas dû partir de Lyon, on a dit c'était plus possible, à un moment... Et ça commençait à y avoir une rumeur comme quoi peut-être on n'était pas américain et tout. Et genre, on est parti de la ville. Donc, il y a encore aujourd'hui des gens à Lyon qui pensent que je suis américain. Et que je m'appelle Jesse, donc. Et que Jesse Archibald, j'avais pris le nom. Ah, mais c'était c'était énorme, bien sûr.
C'était vraiment un immense cassos.
Mais bien sûr. Et vraiment, il y a encore aujourd'hui des gens que j'ai dû bloquer de mon Facebook. Parce que j'avais tout changé sur mon Facebook. J'avais mis né à New York, lycée St. Andrews. J'avais tout changé. Un mytho, mais comme Jaja. Et encore aujourd'hui, j'ai changé il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un an. Parce que je te parle de ça il y a 10 ans. Hein. Il y a un an, ma ville de naissance, j'avais oublié que j'avais mis New York. Et un jour, c'est un pote qui me rajoute, c'est genre ma tante, je sais pas, qui me rajoute sur Facebook et qui me dit « Tu feras attention, tu t'es trompé, t'as mis que t'étais né à New York. » Et j'étais là « Ah mince, j'ai du mal. »
Orthographier Dijon.
Donc ouais, c'est...
Ah donc toi, quand t'as peur de te retrouver face à ton mytho, tu quittes la ville.
Bah, il n'y avait pas le choix. On s'était embourbé dans un truc où la moitié de la ville, de nos connaissances, pensait qu'on était américain. L'autre moitié savait qu'on était des étudiants à la fac de Dijon, en fait. Et on devait jongler. Évidemment, il est arrivé plein de moments sur le fil où, par exemple, on va dans la boîte, on a la table de gens qui pensent qu'on est New-Yorkais et... des potes qu'on croise de la fac, heureusement que c'est une grande boîte et qu'il y a énormément de musique et que les deux groupes se connaissent pas. Mais donc, toi, tu dois parler en français à une table en mode, ouais, ça va, ouais, trop bien, ouais, on est avec des amis et tout. Et après, tu reviens, yeah, it's people from like the university and we love them. And non, c'est pas trop. Ah oui, et ce que je faisais aussi pour pas trop parler anglais et pas que ce soit cramé, je parlais français avec un accent parce que je disais que je voulais pratiquer. Non, que je suis ici pour faire le meilleur, le français. Je veux pas parler anglais, il faut que je pratique mon français. Donc je faisais ça. Donc je parlais en franglais. Et des fois, je faisais genre, je cherchais des mots français que je connais par cœur. Genre tabouret. J'étais là, comment tu le appelles?
Le tabouret.
The chair. How do you say that? Oh, le tabouret.
Wow.
C'était ma vie. Mais je suis devenu dingo. Hein.
Moi, je suis très mal à l'aise avec le mensonge.
Ah ouais, genre, moi ça va.
Genre, j'ai dû arrêter de regarder Ghostbusters parce que Bill Murray, il mentait au début, ça m'a dérangé. Et là, pendant un an. Comment? Enfin, je sais pas, t'as pas peur tout le temps, quoi.
Mais tout le temps. Et il y a vraiment encore des gens, je pense, des fois, s'ils me voient, je sais pas, à la télé ou dans des trucs, ils doivent dire... Bah,
il a appris super vite.
Ah ouais, il a complètement perdu son accent, c'est cool.
Putain,
c'est sûr. Ouais, je sais même plus pourquoi je te racontais ça.
Parce que je disais que t'avais l'air de sortir de Gossip Girl.
Ah bah, eh bah voilà.
Ouais, mais c'est fou parce que vraiment, genre, on dirait vraiment pas la même personne.
Ouais.
T'avais l'air vraiment un petit fuckboy, start-upper, comédien, gosse de riche.
Oh, bah, c'était ma DA, ouais. C'était ma DA. Je sortais de Dijon, de ma ferme, et je m'étais inventé un truc de Gossip Girl. Gossip Girl, ça m'a retourné le cerveau. Hein.
Mais parce que un peu truc de classe, de
ouais, de vouloir d'arriver appartenir à une classe qui est pas la tienne, et tu sais, d'être un peu vouloir faire un peu parvenu, tu vois. Je traînais qu'avec des gens qui avaient du fric. Je sais pas, c'était très étrange. Mais vraiment, il y avait un truc où Gossip Girl, par exemple, je suis allé à New York. J'ai refait toutes les... où il y avait tous les trucs de Gossip Girl. Un cassos.
Ouais.
Et vraiment, ça m'a détruit le cerveau, cette série. Je vivais dans ma tête dans Gossip Girl. J'étais... Mais avec ma meilleure amie aussi, on s'est entraîné là-dedans, laisse tomber. Et il y a un pote qui se foutait de notre gueule, et parce que j'étais aussi fan de Paris Hilton, bien évidemment. Ça, je suis toujours fan. Et du coup, il y a les sœurs Hilton, tu vois, Nikki et Paris. Et comme nous, on était inséparables avec ma meilleure amie, mon pote, il nous appelait les sœurs Ibis. C'est trop méchant.
Ouais, mais je vois. Je vois la touche. Ah, waouh. Ok.
Donc, ouais, j'ai changé. Mais je pense que c'est la maturité aussi. T'as 20 balais, tu pars pour la première fois de chez tes parents, tu t'inventes une vie, t'as l'impression que le monde est à toi. Puis après, bah, la vie, elle te rattrape. Et puis, tu apprends à savoir qui est ta vraie personnalité. Tu vois, je crois que c'est un cheminement de trouver qui t'es vraiment.
Mais à un moment, toi, t'y croyais quand tu faisais le zinzin avec tes amis plein de fric et que t'étais sur des tapis rouges
Ouais, alors ça, c'est une autre période encore. Parce que ça, là, je te parle de quand j'ai 20, 22, que je suis à Lyon, que j'arrive à Paris, que c'est les nouveaux. Et à partir de quand j'ai commencé la fac à Paris, quand j'ai fait les études théâtrales, là, je me suis posé, là, j'ai commencé à devenir un peu le GC que tu connais aujourd'hui. Et je pense qu'aussi, quand t'es comédien et que tu veux y arriver, il y a tellement une urgence, il y a tellement une envie de travailler que t'es dans une énergie... dans laquelle je suis plus du tout aujourd'hui, mais qui est une énergie de, pas de désespoir, mais en tout cas de faites-moi travailler, s'il vous plaît, regardez comme je suis beau, regardez comme je peux tout faire, moi je serai qui vous voulez. Et du coup, en fait, t'es pas toi, t'es juste ce que tu penses que les gens ont envie que tu sois. Et je crois que c'est ça aussi le métier de comédien qui peut aussi te retourner le cerveau, c'est d'être tellement corvéable et d'être tellement dans la demande de faites-moi travailler que des fois tu t'oublies et du coup tu travailles pas parce que tu dégages une aura qui est trop désespérée, quoi.
Hier dans ton spectacle, t'as dit je suis pas déséquilibré, je suis comédien.
Oui.
Mais c'est vrai que j'ai jamais de comédien dans le podcast. Il y en a qu'une que j'aimerais recevoir parce que les comédiens, pour moi, il y a un truc de t'arrives jamais à trouver la vraie personne derrière, quoi. Il y a un truc un peu
de représentation
tellement compliqué,
et
ils sont tellement dans le contrôle de tout.
Ouais.
Ça a l'air très compliqué,
je trouve que l'humour, franchement, ça m'a super aidé à m'accepter, je sais pas comment le dire, mais on a fait un gros travail pour monter sur scène et enlever toutes les armures, mais qui viennent aussi du fait que j'ai été harcelé fort à l'école. En fait, tu te construis une carapace plus t'avances, dévier les coups et pour te dire faut pas que les gens y m'atteignent, et du coup je veux faire le bonhomme, je vais être quelqu'un qui est pas moi, comme ça pourra pas m'atteindre. Et le stand-up et l'humour, ça te force à monter sur scène en étant toi-même, parce que j'ai l'impression que sinon les gens ils voient que tu fais un personnage, ils voient que tu leur donnes pas de l'authenticité. Et du coup ça m'a aidé à enlever toutes mes couches d'armure et à enfin être en paix finalement avec moi-même. Et je trouve que ça, je suis trop content d'être humoriste parce que ça m'a vraiment apporté ça. Et maintenant, ça m'aide aussi dans mon métier de comédien, tu vois. J'ai des castings et tout ça où je suis 100% moi-même, j'essaie plus d'être quelqu'un d'autre pour plaire.
Du coup, t'as pas les rôles.
Et du coup, j'ai quand même pas les rôles, mais je suis moi-même, je suis rejeté en conscience.
Bravo, ma belle. Mais comment t'as fait pour enlever ces couches de carapace? Parce que c'est long, c'est dur.
C'est dur, ben, ça nous... Franchement, le spectacle, on est heureux de ce qu'il est depuis septembre, donc depuis 8 mois, tu vois.
Alors que tu le joues
Alors que je joue depuis 2 ans. J'ai commencé en février 2022. On est depuis 2 ans et 2 mois, et ça nous aura mis un an et demi parce que j'étais jamais monté sur scène pour faire rire en tant que GC. J'étais toujours monté avec des personnages. Déjà, il a fallu apprendre ça, il a fallu apprendre également à se dire que le public n'est pas là contre toi. Et que, tu sais, moi, j'avais tendance à monter sur scène en disant oh, « Faut qu'ils m'aiment, oh, ils vont pas m'aimer, oh, puis regarde toutes tes manières et tout. » Enfin, tu sais, il y avait vraiment un truc où j'étais vraiment très meurtri par ces années de harcèlement. Et j'en avais pas trop conscience parce que ça s'était cristallisé. Mes cicatrices, elles s'étaient vraiment pas cicatrisées, mais en même temps un peu cicatrisées, mais mal. Et j'avais l'impression que ça allait, parce que quand tu touches la cicatrice, ça faisait pas mal. Mais en fait, il y avait quand même du taf à faire. Et en fait, il n'y a qu'un temps qui est incompressible, c'est le temps de la scène, c'est le temps de monter sur scène, d'apprivoiser le public, de se rendre compte qu'ils ne te veulent pas de mal, que tu peux être toi-même, que des fois c'est une phrase que tu vas sortir du texte, que tu l'as dit vraiment comme tu l'aurais dit dans la vraie vie, et tu te rends compte que les gens rigolent, et t'es là, ah en fait ça débloque un truc, t'es là, ah en fait cette phrase je l'ai dit comme ça, mais ah ok, bah je vais en dire d'autres comme ça maintenant. Et au fur et à mesure tu dis tout ton spectacle finalement maintenant comme t'es vraiment, puis après j'ai rajouté des impros, c'est le dernier truc qui est venu où je me suis senti à l'aise et maintenant j'aime trop. Mais c'est pour ça aussi que le spectacle maintenant, il fait 2 heures, wesh.
Il fait 2 heures.
1h50, j'ai fait 1h50 à Arras.
Ah, oh, mais c'est parce qu'ils étaient incroyables.
Ils étaient incroyables,
à Bruxelles,
ouais.
T'as fait 1h30 hier.
Ah, 1h30 ?
Ouais.
Ok. Ouais, mais tu vois, c'est
ouais, c'est long, quoi.
C'est long, quand même.
Enfin, ouais, ça dépend.
Tu vois ?
Moi, je trouve ça long.
Mais mon spectacle ou 1h30 ?
Ton spectacle. Ah, ouais, je sais pas comment te le dire, mais putain, moi. Il y a un petit ventre mou du milieu à
toi,
la fin.
Ouais, toi, c'est quoi ? C'est 35 minutes, hein ?
Ouais, c'est spectacle. Ça. 35 minutes, dont ça. Première partie.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. C'est, en fait, les gens ne veulent pas me voir plus, j'ai remarqué.
J'ai entendu, moi, en tout cas, des rumeurs à la sortie de tes salles comme quoi c'était déjà long. Ouais. Donc. Non, mais en fait, tout ça pour. Enfin, en tout cas, le métier, je pense que tu seras d'accord avec ce que je dis. J'ai l'impression que plus on monte sur scène, et plus on l'apprend, et plus on est meilleur.
Et plus on s'en fout aussi.
Et plus on s'en fout,
plus
c'est vrai.
Plus on se rend compte à quel point il n'y a rien de grave.
Non.
Tant que tu respectes les gens qui ont payé,
Je suis d'accord.
T'as fait. Bah après,
mais des fois, c'est dur quand même. Des fois, t'as beau te dire. Tu sais, quand ça s'est pas bien passé, tu sors, t'es là, ok, c'est pas grave, on recommence demain. Mais. C'est dur. Moi, je trouve, j'ai encore du mal à passer. Et heureusement que, par exemple, tu vois, sur des dates, toi, t'es là, j'ai des amis qui viennent et tout, pour que après, il se passe un autre truc aussi après le spectacle.
Oui, pour qu'elle soit pas le sommet de ta soirée.
Ouais.
Si ça s'est mal passé.
Parce que si ça s'est mal passé, tu rentres chez toi. Alors moi, je décompresse, je me mets un épisode de Charmed tous les soirs.
Tu peux dire Charmed comme tout le monde. S'il te plaît.
J'ai tellement dit Charmed longtemps mais et je m'en suis tellement voulu quand j'ai appris qu'on disait pas Charmed. Je me suis dit, mais t'es bête,
mais
t'as dit Charmed.
Mais comment tu veux qu'on sache ?
Mais on pouvait pas savoir.
Bah non.
Moi je disais Prue, Phoebe, bah, Piper.
Ouais, elle t'aurait pu dire Phoebe.
Phoebe, une fois, parce que j'ai fait un livre des ombres chez moi et tu sais, tu faisais que regarder. J'avais jamais vu écrit Phoebe. Je l'avais écrit F-I-B-I.
C'est un peu comme les saucisses, non ?
Je sais pas, non. En France, il y a pas Phoebe en saucisse.
Non, c'est pas. Attends, c'est pas quoi ça le nom. Les
c'est
saucisses.
Knacky.
Non, pas Knacky. Les trucs dans les snacks, enfin dans les pompes à essence, genre.
Ah.
Yo, ici la Fanny du montage. C'est juste pour préciser que la marque Infect que je cherchais, c'était Beefy.
Ah, les saucisses sèches là ?
Ouais.
Ah ouais, je sais plus comment
ça s'appelle.
Mais ouais, Phoebe, F-I-B-I. Allez, yes.
Bah oui, hein.
Bah écoute, on grandit à Dijon ou on grandit pas à Dijon, hein.
Est-ce que tu aurais aimé, moi je me rends compte de ça seulement maintenant, j'aurais pas du tout aimé grandir en ville. Enfin, si, j'aurais adoré, mais je pense que j'aurais été une personne moins chouette.
Ben, moi j'avais vraiment ce fantasme, encore une fois, de vivre en centre-ville, d'avoir un appartement, comme les gens qui avaient l'air cool au lycée.
Ouais, mais ça c'est un truc qu'on fantasme au début.
Ouais, ouais.
Et quand tu prends du recul et quand tu vois qu'il y a plein de gens qui ont grandi en ville et tout, et qu'ils ont l'air un peu plus fermés sur ça. Moi, je me dis franchement, je suis bien contente d'avoir passé 18 ans avec des vaches, quoi.
Ouais, alors, moi, à l'époque, pas du tout, je le voyais pas comme ça. J'avais vraiment envie de faire partie de cette bande du centre-ville, qui avait leurs grands appartements au centre-ville. Moi, je prenais mon Transco, c'est les transports communs en France. Je mettais 45 minutes pour entrer dans mon bled de 500 habitants. Et c'était... Non. À l'époque, j'avais pas envie de cette vie. Je fantasmais vraiment sur la ville du centre-ville. Et d'ailleurs, mon père a déménagé à un moment donné. Il s'est rapproché du centre-ville de Dijon. Et du coup, j'y étais plus souvent. Mais c'était quand même pas un appartement au centre-ville. C'était une maison avec un jardin proche périurbaine, tu vois. Et je trouvais que c'était vraiment plus cool que le bled de ma mère, où c'était l'enfer. Et aujourd'hui, en revanche, je trouve que c'est trop sympa de vivre en périphérie de ville. T'as plus d'espace, t'as des espaces verts. C'est cool.
T'es un garçon de la nature, toi.
Je suis grave un garçon de la nature, en fait. Tu vas faire quoi ?
Tu joues beaucoup plus qu'avant. Moi, j'ai vu le spectacle il y a un an et demi.
Mm-hmm.
Et maintenant, tu joues beaucoup plus.
Mm. Ouais, je m'éclate.
C'est beaucoup moins théâtreux. Avant, c'était assez...
Ouais. Bah, avant, j'avais envie de convaincre. J'avais envie que les gens viennent dans la salle et se disent « Oh, qu'est-ce que c'est intelligent !» Et non, mais tu sais, et là, j'en suis vachement sorti de ce truc de représentation. Et là, je m'en fous. Je fais ce qui me fait rire.
Mais là, t'as envie que les gens ils se disent quoi en sortant ?
Bah, j'ai envie qu'ils se disent « Ah putain, c'était vachement bien !» Peu importe si c'est parce que c'était intelligent ou parce que c'était drôle. Alors qu'avant, j'avais vraiment envie qu'ils disent « qu'est-ce que c'est intelligent ?» Comme si j'avais besoin de prouver quelque chose. Alors que aujourd'hui, j'ai roté, pardon, parce que j'ai pris un petit déj fatos en terrasse. C'était trop
c'était
bien.
C'était quoi son petit nom?
Non, j'ai même pas couché avec un mec à Bruxelles, je suis deg.
Et il est pas trop tard, hein, tu restes encore
une. Putain, je voulais me taper un député européen, j'ai pas eu le temps.
Il y en a plein.
Bah ouais, je sais. Il y en avait un dans la salle.
C'est vrai?
Oui, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a posté une story, il est député. Je te l'avais dit, eh, c'est pas le public de Fanny Ruet. Hein.
Ah non,
Ruet, ça... putain, j'arrive pas.
C'est pas grave, tant pis, c'est pas grave.
Mais tout le monde doit te la faire en plus.
Un manque de respect. Ouais, mais les gens dont je suis proche, d'habitude, oh, ils savent au moins mon nom, quoi.
Je suis trop désolée.
Mais bon, c'est pas grave. On n'en est pas à ça près.
Petite puce. Donc ouais, non, je prends plus de plaisir sur scène, franchement.
Et est-ce que t'arrives à toujours avoir le même fun en jouant un texte que t'as écrit à la base pendant le confinement?
Oui. Et ben, alors déjà on l'a vachement modifié, mais ouais, je suis toujours trop content. Vu que je parle pas de choses d'actu vraiment, tu vois, même jamais. C'est des thèmes un peu qui vont pas vieillir parce que je parle de mon enfance, je parle de ma vision de la filiation, de la ferme, du harcèlement, de tout ça. Donc c'est des choses qui sont pas des choses où dans 5 ans je serai en mode oh, pff, les gens s'en foutent. Mmh. Tu vois, c'est s'ils s'en foutent dans 5 ans, c'est qu'ils s'en foutent aujourd'hui, tu vois, c'est un peu intemporel. Et quand je l'ai écrit, j'ai vraiment fait attention à ça. À faire que, vu que c'est un premier spectacle, je sais pas combien de temps tu vas le jouer, parce que le temps de te faire connaître, qu'il touche son public et tout, ça peut prendre du temps. Et parfois, tu le joues 6 ans, tu vois. Et du coup, je me suis dit, oula, faut prendre des thèmes où dans 6 ans, j'aurai encore envie de les défendre.
Ah, t'as vraiment réfléchi à
ouais,
ça au
ouais,
début?
Ouais, ça, c'était un vrai truc. Parce que j'étais entouré de Marion Mésadorian. Et ça, c'est un vrai conseil qu'elle m'a donné. Elle m'a dit, fais gaffe, un premier spectacle, si t'écris des choses assez légère ou des réflexions de la vie quotidienne sur de l'actualité, dans 2 ans, déjà, ce sera un peu daté et tu auras peut-être plus envie de le jouer, tu auras envie de le modifier, tu passeras à un autre. Vaut mieux avoir un premier spectacle fort dans sa narration et dans ce que tu racontes. Comme ça, dans 6 ans, t'es toujours content, quitte à évidemment le faire évoluer. Mais et le deuxième, par contre, quand normalement tu t'es créé ton public et tout ça, tu peux aller vers des thèmes peut-être un peu plus actuels, un peu plus où tu te présentes moins en fait. Mmh. Je l'ai vraiment écrit comme une première rencontre. Genre, je vais vous dire qui je suis.
Mais c'est fou parce que moi, mon premier, je pense, il était comme ça aussi. Mmh. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même une très mauvaise technique. Genre, les gens, ils te connaissent pas. Et plutôt que de leur dire « je vais vous convaincre en étant drôle avec des choses que vous connaissez, je vais plutôt vous parler de moi ».
Ouais, c'est fou. Bah, de toute façon, on a un nombril incroyable. Hein. Franchement, oui, humoriste,
oui. Ouais, le melon.
C'est un truc de fou. Hein, de penser que... Non, mais rien que de se dire « hé, je suis tellement gaulerie que je vais monter sur scène et je vais faire payer les gens pour qu'ils aient la chance de m'entendre les faire rire ». C'est un truc de fou quand même de se dire ça. Personne ne fait ça. Normalement, c'est gratuit de faire rire les gens. Personne.
Oh mais non, parce que c'est du travail.
Bien sûr, mais en soi.
Oui, non, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens.
Enfin, le concept.
Parce que tout le monde rigole dans la vie. T'as des potes drôles, t'as des machins. Nous, on s'est dit, on va monétiser le truc tellement on est les meilleurs dans ce qu'on fait et on va faire payer les gens. Les humoristes, on est des fous, je trouve. Quand tu zoomes un peu, dézoomes un peu. Mais après, tant mieux. Hein.
Ça fait de l'oseille.
Parce que ça fait de l'oseille, ça paye. Parce que là, vous voyez pas, je suis dans un penthouse, littéralement, à Bruxelles.
Qui coûte quand même moins cher
qu'un
12 mètres carrés à Paris.
12 mètres carrés, t'exagères. T'essayes trop de faire passer pour une pauvre devant tes auditeurs.
Pas du tout, j'ai un max d'oseille. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner sur le Patreon. Je dois refaire la terrasse.
Allez, achetez son livre.
S'il vous plaît. Toi, tu l'as acheté.
Moi, je l'ai acheté, je l'ai lu, bien sûr. Tu vois, je prononce peut-être pas bien ton nom de famille, mais je suis un vrai ami qui va acheter ton livre et qui le lit. Hmm, t'as rien à dire, là, hein?
Non, j'attends de te rendre l'appareil quand tu écriras un livre.
Bah ouais, peut-être un jour. C'est j'ai lu celui de Panayotis aussi, là, il y a pas longtemps, qui était super. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, c'est un peu la mode, là, pour les humoristes.
De ouf.
De lancer leur livre.
Il y a 5 ans, c'était le podcast, maintenant, c'est le roman.
Ouais. Ouais. Mais c'est bien parce que vu que t'as une communauté, hein, les gens ils achètent, je pense qu'ils sont contents, c'est un peu une continuité du spectacle.
Ouais,
de...
C'est très cohérent, ouais.
C'est cohérent en fait, ouais, voilà. Non, puis c'est cool, ça doit être sympa à faire, t'as kiffé?
C'était long, ça rase.
T'as mis combien de temps?
J'ai mis 2 étés.
Ah ouais?
Parce que vu que j'avais la tournée et tout le reste du temps, donc 2 étés plus toutes les corrections pendant 4 mois. Mais ouais, non, c'était très cool à faire, mais tu vois, je pense que le stand-up, ça nous a un peu bousillé dans le sens, dans le sens où maintenant on a une idée, on le fait direct. Il y a zéro délai. Alors que là, le roman, tu dois, t'as une idée, tu l'envoies, tu reçois des retours, machin. Il était terminé en décembre, il est sorti en mai, un truc du style, tu vois. Et moi, c'est le délai. Bon, c'est encore pire dans le cinéma et tout.
Ah bah oui.
Mais c'est un truc que je supporte plus, du coup, tellement j'ai l'habitude que tout aille vite. Et genre, j'ai une idée, je peux le mettre sur Insta ce soir, quoi. Mmh. Et c'est... Enfin, je sais pas.
Mais tu fais pas trop, toi, d'impro, de trucs face cam, tu sais, qui sont vachement à la mode en ce moment, sur les réseaux.
Ça, je pense, je suis très mauvaise. Enfin, j'ai jamais essayé, mais je crois... En fait, je trouve qu'il y a trop un risque que si t'es mauvais, c'est gênant. Parce que vraiment, on voit que t'as mis des efforts, t'as pris ton truc face cam, t'as probablement t'as fait un peu l'éclairage et tout, tout ça pour faire des blagues qui sont peut-être pas folles. Mmh. Je trouve ça... Enfin, j'ai pas le... J'ai trop peur, quoi.
C'est dur, hein. C'est dur, et puis je trouve que on se lasse. Bah, y en a tellement, y a tellement...
Et il y en a tellement qui font ça très bien.
Ouais.
Que tu dis, vas-y, j'ai rien à apporter de...
Ouais, de ouf. Complètement.
Ouais, donc, ouais, non. Juste les petites chroniques radio sur Insta, ça part.
Ah oui, c'est vrai que tu mets tes chroniques.
Ouais. Ouais, toi, t'as très vite, t'as fait la com. Enfin, tu vois, logiquement, les gens, ils commencent le stand-up, ils mettent un peu des trucs éclatés, ils mettent un peu des vidéos tout le temps. Enfin, tu vois, toi, dès le départ, t'avais... ta couleur, t'avais tes teasers message personnel avec Anna Girardot, t'as supprimé tout ton Insta d'avant.
Ouais. Ouais, je l'ai un peu vu. Ça a été un peu une nouvelle vie qui commençait, hein, le stand-up. Ouais, j'ai voulu un peu repartir de zéro. Et je l'ai traduit comme ça sur mon Insta en supprimant un peu ce que j'avais fait avant, comme pour dire, bah, j'écris une nouvelle page... venez me suivre si jamais ça vous dit, on part dans l'aventure ensemble. Et j'ai toujours eu une esthétique et une envie de direction artistique assez forte dans ma tête, et j'ai eu des idées, et Anna a eu la gentillesse de bien vouloir réaliser des pastilles, et que j'ai demandé à des guests de venir, et du coup voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à teaser le spectacle Message Personnel. Et maintenant je suis un peu sorti de ça, je fais plutôt des vidéos avec Esteban, et où on parle un peu qu'est-ce que c'est que l'amitié entre un mec hétéro et un mec gay. Et parce que c'est un truc qu'on avait encore pas vu, et je trouve qu'on a du mal à se figurer l'amitié entre deux mecs,
oui, un
mec gay.
Mais non, mais il y a ce réflexe
d'office, on pense que le mec gay veut se taper le mec hétéro, ou que le mec hétéro, pas si hétéro que ça. Et nous, du coup, on a joué sur cette ambiguïté-là, et ensuite, on a fait évoluer les persos en mode, bah non, genre, on est potes, genre, on est coloc, lui, il a ses histoires avec les meufs, moi, j'ai ses histoires avec les mecs, et on se retrouve sur notre amitié, et j'ai l'impression que les gens, ils adhèrent, donc c'est trop cool. Donc c'est plus comme ça maintenant que je fais un peu la promo.
Mais ça veut dire aussi que quand t'as supprimé tous tes trucs d'avant, t'as aussi un peu... Enfin, je trouve ça assez étonnant que tu veuilles pas mettre en avant le fait que t'as joué dans pas mal de films. C'est des petits rôles, mais dans des gros films parfois. Et que ça, vraiment... Du coup, moi, si on n'était pas potes et si j'avais pas cherché, je saurais pas que t'es comédien.
Ouais. Bah, il y a eu une vraie volonté où j'avais pas envie de brouiller les messages... Et où j'avais estimé aussi que ma carrière de comédien était pas non plus mirobolante et à son apogée, que je pouvais me permettre de supprimer de mon Insta des trucs sans que ça me porte préjudice, tu vois. J'avais pas non plus un super grand rôle quelque part dont j'avais envie qu'on se souvienne, franchement. Et surtout, avec Internet, tu retrouves tout, enfin, tu vois, et dans les interviews... je le dis que je suis comédien, que moi j'ai commencé ce métier en tant que comédien, que j'ai fait du théâtre, et que le stand-up c'est un nouveau métier que je commence, et parfois j'aime bien un peu mettre toutes mes billes dans le même panier. Et du coup là je me suis dit, allez, go full stand-up, on se réinvente, on se lance dans cette nouvelle aventure, et on voit ce que ça donne. Et pour revenir encore mieux au cinéma, tu vois, ou au théâtre.
T'en fais encore beaucoup ?
Non. J'avoue que, en fait, avec la tournée, avec les dates à Paris, il n'y a pas le temps. Je devais faire deux films qui n'ont pas pu se faire parce que mon emploi du temps. Et c'est la première fois de ma vie que ce truc arrive. Ouais. Et donc, je me dis, ok, génial, trop cool. Je suis arrivé à cet endroit où je rêvais d'arriver, où je peux faire des films qu'on me propose. Et en même temps, contrepartie, je peux plus les faire vu que j'ai pas le temps avec le spectacle. Mais là, on va trouver du temps. J'ai des trucs prévus où on va trouver du temps entre les dates de tournée et cet été. Mais j'ai vraiment envie d'y retourner, ouais. Parce que j'adore aussi ça. J'adore tourner. C'est pour ça que j'ai fait les petites pastilles avec Anna. C'est pour ça que je fais les vidéos avec Esteban. Je trouve que j'adore apprendre un texte, faire un personnage. Et...
Mais est-ce que c'est pas des fois assez curieux de revenir à un milieu où t'es hyper dépendant de la volonté des autres? C'est pas frustrant?
C'est frustrant. Et en même temps, mon spectacle et l'humour et le stand-up m'ont tellement donné pour l'instant une stabilité et du travail que si je fais du ciné ou si je fais de la télé, c'est à côté. C'est en plus. C'est pas ma vie. Tu vois. Donc si le projet il se fait pas, si machin, je suis pas dépité en mode oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Non, j'ai ma tournée, j'ai mon spectacle, j'ai d'autres choses que je prépare, tout va bien. Si en plus je peux faire ça, c'est bien. Et du coup, ça me permet aussi d'arriver au casting ou d'arriver au rendez-vous avec les prods et les réals. Plus dans l'urgence de travailler. En mode, oui, bon, bah, si on le fait, ouais, ça peut être cool, parlons-en, essayons de développer. Et vu que maintenant aussi j'écris, tu vois, bah, on écrit ensemble, tu vois, avec Bérangère son spectacle, j'ai écrit mon spectacle, j'ai écrit les pastilles pour Esteban. Et du coup, les prods et les réals aussi maintenant peuvent venir me chercher pour qu'on développe un truc ensemble, qu'on écrive ensemble. Et du coup, ma place, elle n'est plus du tout la même. Je suis vraiment dans le processus créatif. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que je dis, bon, bah, par contre, j'aimerais bien jouer ce rôle que j'ai écrit. Et du coup, il y a un truc en plus qui fait que je pense que je fais moins pitié.
Ouais, mais c'est vrai
tu
que
vois
dans ce milieu, si t'as... En fait, la frontière, elle est très fine entre avoir la dalle et être affamé. Et genre, si t'es trop dans... En fait, c'est comme dans les relations amoureuses, quoi. Si t'as l'air d'avoir trop faim, les gens, ils seront comme « Oh non, c'est louche. Mais si personne l'a voulu avant, c'est qu'il y a une raison, tu vois. »
Exactement. Et ouais, non, c'est
assez fourbe.
Et du coup, c'est dur, hein, parce que quand t'es pas assez mature pour avoir cette réflexion que tu viens d'avoir, et ben...
Je suis HPI.
Je crois pas. En plus. et moi, je l'ai eu jusqu'à... Cette immaturité, je l'ai eu jusqu'à tard. Je l'ai eu jusqu'au confinement. En fait, le confinement, ça m'a fait vachement réfléchir, vachement poser de choses, vachement relativiser. Moi, j'ai failli arrêter ce métier. J'avais passé des essais pour être steward. J'avais eu un ras-le-bol, ouais, juste avant le confinement.
Donc avant le confinement, tu étais comédien, tu faisais pas encore le stand-up?
Ouais, non. Moi, j'ai commencé le stand-up en 2022.
Et t'as failli être steward?
Non. J'ai voulu. En fait, j'ai eu deux expériences de tournage qui se sont très mal passées avec un réalisateur vraiment horrible où je jouais un personnage hétéro et sur le plateau qui était dans l'humiliation permanente de dire « Non mais attends, là-haut, c'est quoi ces manières de péder ? Non, attends, le personnage est hétéro et tout. » Très dur. Et je suis ressorti de ça, mais... J'avais plus du tout confiance en moi. J'étais en mode, vas-y, je serais jamais capable de jouer autre chose que des personnages efféminés, parce que je suis qu'un mec efféminé. Et ça m'avait réouvert mes traumas de harcèlement parce que petit mec trop efféminé. Et donc, j'ai voulu arrêter ce métier. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de voyager, j'ai envie d'un métier pas trop compliqué, pas trop engageant. J'avais un pote steward chez Air France et il m'a donné un plan. Il m'a dit, tiens, on recrute en ce moment et tout. Et j'ai passé tous les essais, j'ai été pris. Et j'allais commencer, j'imagine, une semaine de formation ou quoi, et confinement.
Ah ouais.
Et évidemment, ils
ont... En fait, tout ça, c'est juste pour que le destin te remette sur le bon chemin.
Ben
donc,
ouais.
On est resté enfermé chez nous 3 mois juste pour toi, quoi.
En fait, le coronavirus, si je dois tout te dire, c'est une fiole que j'avais chez moi, que une des sœurs Halliwell m'a donnée. Non, mais c'est fou. Genre, s'il n'y avait pas eu le confinement, je suis persuadé, peut-être que j'y serais revenu après, une fois guéri. Mais vraiment, j'étais parti en mode, c'est bon, je serais hôtesse de l'air, en fait. Et je vais vivre ma vie rêvée, je vais trouver mon milliardaire en business, et on n'entendra plus parler de moi, tu vois. Et en fait, non, confinement, évidemment, Air France a supprimé toutes ces recherches de nouvelles personnes, parce qu'ils ont licencié, et j'ai écrit le spectacle, on sort du confinement et je l'améliore. Et 1er février ou 2 février 2022, je joue la première à la Petite Loge. Et après...
Toi, t'as un parcours assez chelou parce que t'as beaucoup de réflexes très théâtre. Dans le sens où ouais, t'as pas fait comme tout le monde dans le stand-up à aller tester 10 minutes, machin. T'es arrivé avec ton heure. T'avais jamais rien testé avant.
Jamais.
Et donc, t'as présenté 15 minutes au fil de la Petite Loge.
Ouais.
Pour qu'elle te programme. Oui. Déjà, ça doit être une terreur absolue.
C'est horrible, c'est horrible. Alors, heureusement qu'elles sont hyper bienveillantes et qu'elles sont super, mais c'est horrible. T'es quand même dans une salle devant deux personnes.
bah qui rigolent pas en plus, enfin elles taffent, tu vois, et alors évidemment elles rigolent, elles te donnent de la force un peu, mais tu sens que t'es là, est-ce qu'elles rigolent vraiment ou est-ce qu'elles sont là en mode allez on lui donne de la force tellement c'est nul. Et ouais, c'est franchement c'est comme un casting mais de l'angoisse. Genre le
et
casting
puis
15 est plus
minutes,
angoissant.
C'est long pour un casting.
C'est long. Et puis en plus tu sais pas ce que tu leur proposes et tout. Puis moi j'étais vraiment, alors là pour le coup à l'époque du casting à la petite loge, j'étais vraiment encore dans mon truc. Faut que je sois intelligent. Donc j'étais posté derrière mon micro, le regard dans le vague, je déclamais à Shakespeare, tu vois. Folle. Alors que je parlais de me faire enculer quand même sur scène. Non mais. Je me suis pris pour qui. Donc, ça c'est top. Après, j'ai eu le casting de la petite loge, trop bien. Et tous les mercredis, une fois par semaine, j'ai musclé le texte. J'ai appris ce métier grâce à Marion, beaucoup, mes adorants. Ensuite, Émilie est rentrée dans la boucle. Elle a décidé de produire le spectacle. On est parti au Théâtre du Marais pour le roder. Vraiment, sont entrés dans l'écriture, m'ont aidé beaucoup Marina Rollman. Et aussi, j'ai un peu fait avec Laura Felpin et Marion Mésadorian a continué de m'aider pas mal. Après, tu sais, nous, on a fait aussi un peu des chroniques où tu m'as aidé dans l'écriture. Et du coup, j'ai comme ça créé un peu une team de filles. Moi, j'adore m'entourer de filles. Je trouve que c'est quand même les meilleures dans ce game.
Disons qu'on peut pas se reposer sur d'autres acquis de type... juste être là.
Ça c'est sûr, vous êtes obligés de taffer. C'est ça. Ça c'est sûr. Mais on se rejoint quand même les humoristes homo et les humoristes femmes sur un peu
faut prouver quoi.
Et puis quand il y en a un au line-up. Non mais c'est bon, on peut en mettre deux, tu vois. Donc on se comprend là-dessus, toi-même tu sais. Mais ouais, après j'ai taffé, j'ai appris le métier au Théâtre du Marais et puis là à la rentrée enfin La jolie salle du petit palais des glaces, tout, ça va être trop chouette. Et là, ma première tournée, là, c'est trop génial. Oh, j'adore. Bon, des fois, il y a des villes où ça se passe pas bien, mais c'est trop bien.
Quand t'as écrit le spectacle, vu que tu voulais un truc très intelligent au début, mais que tu... Pourquoi tu l'as pas présenté au théâtre, déjà ?
Eh ben, c'est une bonne question. Parce que je pense que c'était tellement pas un seul en scène que ça avait déjà un peu une forme... humour stand-up, et que Marion, ma metteuse en scène, vient de l'humour et qu'elle m'a tout de suite donné des salles identifiées humour. C'est vrai que je me suis pas vu aller dans un théâtre, parce que déjà des petits théâtres de 30-40 places, il y en a très peu. C'est souvent des choses qui font de l'humour. Et aussi, un spectacle de théâtre, tu le joues assez peu finalement. Tu vas faire 2-3 saisons maximum, mais tu joueras jamais 6 ans. Et moi, j'avais vraiment ce spectacle de le jouer longtemps.
T'avais envie de stabilité.
Ouais, j'avais envie de stabilité de ouf. Non, mais c'est vrai. Mais moi, en plus, plus je joue, plus je suis content. Parce que des fois, Émilie, elle me dit, alors là, tu vas jouer 6 fois. Ça va pas être trop dur
en
et
une
tout.
Une semaine?
Ouais, bah là, cette semaine, j'ai joué 5 fois.
Oh, waouh. Ah ouais, c'est énorme.
Et 2 fois, en plus, là, un jour. Et non, je suis crevé, mais franchement, quand je suis sur scène, je suis tellement content. Et tu vois, là, je rejoue tout à l'heure à Namur. Je me suis remis la première partie de Nicolas Lacroix. Trop content devant 900 personnes. Mais dès que je suis sur scène, je suis trop content. Mais pour aller jusqu'à la scène, des fois, je rampe. Hein. Je suis en mode, waouh, la fatigue.
La fatigue, la puce, là.
Elle est plus fatiguée, en fait.
et du coup, comment t'as réussi à trouver l'équilibre entre je vais pas faire une conférence TED? Mais accepter aussi le fait que j'ai l'impression que tous les deux, enfin moi c'est un truc que j'accepte en tout cas. Je sais que j'ai un humour, ça va jamais être le plus drôle de la soirée. Ça va jamais.
Pareil.
Et c'est des fois ça fait mal. Hein.
Bah bien sûr, mais c'est pour ça moi aussi que j'aime pas trop faire des comedy clubs et tout où chacun passe 10 minutes et où en fait c'est un peu le concours de qui a la plus grosse.
Alors que
c'est moi, tout le monde le sait. Non seulement j'ai la plus grosse et je peux prendre la plus grosse, donc vraiment venez même pas me tester. et je trouve que ouais, il y a un truc déjà, c'est tellement une compétition au-delà des comedy clubs, c'est en plus on se rajoute dans l'arène une compétition de chacun à faire 10 minutes et les gens ils ressortent de là en se disant le 2 il était vraiment moins bien que le 4, oh j'ai pas aimé le 5, c'est trop dur. Et en plus quand toi t'as un univers qui marche pas à l'efficacité du punch, du rire et qui est sur un récit, et où tu vas trouver ton rire toujours, mais après avoir mis un contexte.
Ouais, bah, ou même juste des fois, c'est un rire qui est pas sonore, c'est non, plus ouais. un truc de ah putain, c'est ouais. malin, c'est beau.
Ouais,
c'est
exactement,
doux, c'est machin,
exactement.
Quoi.
Mais je crois que les gens, ils en ont besoin aussi de ce genre d'humour. Je crois que moi, enfin, en tout cas, notre public, j'ai l'impression.
Tous les quatre.
Tous les.
Ils sont fidèles, hein. Ils sont là toutes les dates. Lille, ils étaient là. Bruxelles, ils étaient
ils
là.
Ils sont bruyants, nos quatre fans. Et non, mais en tout cas, je pense qu'ils aiment ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'il y a de la place pour nous, comme il y a de la place pour des gens comme Redouane Bougueraba, qui sont des improvisateurs incroyables. Mmh. Et il y a de la place pour tout type d'humour. Et j'ai l'impression que malheureusement, aussi nous, ça prendra peut-être un peu plus de temps, parce que bah, ils sont moins nombreux, notre public, donc il faut aller les chercher plus longtemps. Je sais pas, j'ai cette impression-là.
Ouais, et puis même les retours sont... Enfin, quand, je pense que quand t'es Redouane, tu fais une impro aux zinzins, les rires, ils sont ultra forts. T'as un truc t'as direct. Nous, bah, moins quoi.
Moi, je vois quand, on fait, quand je fais des... Toi, tu fais des impros dans ton spectacle ?
J'en fais un petit peu et c'est toujours ça qui marche le mieux, quoi.
C'est fou, hein.
C'est... Mais Jérémy c'est Ferrari m'avait dit... Genre, je faisais
mais ça veut pas dire que c'est ce qu'il préfère.
Encore la Fanny du montage. Ma copine a écouté l'épisode et ça l'a rendu ouf que j'ai pas terminé cette phrase, donc je la rajoute. Jérémy Ferrari, il m'avait dit « Pour le public, même une mauvaise improvisation, ça sera toujours plus drôle qu'un bon texte. » Et bah, c'est très vrai, en fait.
Mais ça veut pas dire que c'est ce qu'ils préfèrent. En fait, ça veut dire que c'est ce qui vont les faire rire plus spontanément et le plus fort, mais c'est pas ce qu'ils retiendront. Ils retiendront, oui, c'est bien improvisé, mais ils retiendront vachement aussi les thèmes. Hein. Moi, je vois que mon spectacle, il marche dans le sens où les gens, ils ressortent en disant
« Les navets !»
Les lavements.
Les
non, ils ressortent avec, tu vois, ce thème de la filiation, du harcèlement qui reste. Alors oui, ça les a pas fait rire, mais c'est un truc auquel qui les aura marqués, je pense. C'est important aussi. Parce que des fois, tu peux aller voir un spectacle, tu rigoles de A à Z, carrément, mais tu...
T'as rien retenu.
Quatre jours après, t'es en mode, oh, de quoi ça parlait? C'est, franchement, c'était assez drôle. Hein. Mais alors, je sais plus trop. Oh, bah,
mais moi, j'aime assez bien. Mais en fait, ça dépend si tu cherches un propos ou un moment. Et moi, il y a des spectacles que j'ai trouvés hilarants. Jérôme Niel, hilarant. Mmh. J'ai rarement autant ri à un spectacle, mais je n'ai plus aucun souvenir.
Ah ouais.
Mais j'adorerais retourner le voir parce que je sais que le moment était fou, quoi.
Ouais. Mais il y a des choses comme ça. Et je pense que il y a vraiment un public pour tout et que tu peux faire plein de... Tu vois, Vincent Dedienne fait une forme d'humour, Laura Felpin en fait une autre, Foresti aussi. Et chacun est différent, chacun cartonne. Blanche Gardin aussi. Donc il y a vraiment un truc, quoi. Donc je pense qu'il faut juste, encore une fois, on revient au même truc... Continuer, s'accrocher, s'acharner.
Toi, il y a eu des moments où tu t'es dit peut-être en fait l'humour c'était pas la bonne place.
Ben, je me suis dit vachement ça pour le cinéma et l'humour c'est la première fois où j'ai l'impression d'être à ma place et donc ça me rend très heureux et ça me rend aussi beaucoup plus apaisé. Je vois que je suis plus le même hein, depuis ces dernières années et parce que j'ai l'impression que je suis à ma place, que les gens savent que je suis à ma place, que je prends la place de personne, que j'ai pas ce syndrome de l'imposteur et que voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin, je fais mon spectacle, je rencontre mon public et je suis content et à aucun moment je me dis ah pourquoi tu fais ça. Non, jamais, je suis trop content de faire ça et j'ai l'impression que les gens le sentent, que bah c'est en fait moi là pour c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui marche, que j'entreprends dans ce métier. Bah ouais, ma carrière de comédien, j'ai eu des rôles petits, mais dans des super gros projets, mais j'ai jamais eu grand-chose à défendre. J'ai eu un super rôle au théâtre avec Francis Huster hein, dans la pièce, dans une grosse comédie de Ruquier. Mais après, on m'a pas reproposé de rejouer au théâtre dans des rôles. Tu vois, ça a été toujours un peu, j'avais l'impression, mais c'est le métier de comédien hein, qui est super dur, où tu dois te battre tout le temps. Et du coup, j'avais l'impression de qu'être là, bon, bah, peut-être que les gens, ils veulent pas être moi ici. Hein. Peut-être qu'ils se disent, j'avais encore ces traumas de me dire, non, mais ils se disent que, oulala, qu'est-ce qu'on va faire? On peut lui donner que des rôles de gay, et être si gay. Tu vois, j'avais vraiment...
Au théâtre, dans la pièce à droite à gauche, tu jouais un gay?
Non. Je jouais un hétéro.
Ok.
Mais il y avait quand même 2-3 vannes où peut-être qu'on pense que je suis gay, j'aime pas du tout, j'ai une meuf, papa, laisse-moi tranquille.
Ah ouais, donc ça ramenait quand même toujours à
tu
ça.
Tu vois. Et non, la seule personne qui m'a donné à chaque fois, qui m'a fait confiance sur des rôles hétéros, c'est Cédric Clapiche. Mais
j'aimerais trop dire cette phrase. Non,
j'avoue,
mais c'est lui qui me comprend.
C'est hyper chic, mais il y a un mais, c'est qu'il m'a jamais, c'était des rôles de un jour, ouais. Tu vois, un ou deux jours. Et comme si, moi je l'interprétais comme si, ah, un ou deux jours ça va hein, pour que tu joues l'hétéro, mais enfin, on va pas y croire plus longtemps. Tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. En tout cas, moi je le prenais comme ça et ça me bloquait. Même dans mes castings et tout, j'avais l'impression que je devais faire le bonhomme quand le rôle était pas gay et tout. Et tu vois, là par exemple, mardi j'ai un autre casting, je sais pas si je vais le réussir ou pas, on verra. Je pense que le rôle est hétéro, mais je peux te dire que je vais y aller comme je suis. Et que je vais pas me viriliser. Le stand-up m'a toutes ces couches que j'ai réussi à enlever de carapace grâce au stand-up, ben ça va m'aider aussi dans les castings de pouvoir y arriver en étant moi-même. Ben écoutez, là c'est ce que je vous propose parce que c'est qui je suis, et si ça vous va pas, malheureusement je crois que c'est que on n'est pas fait pour cette rencontre pour sur ce rôle, alors qu'avant j'aurais tout fait pour correspondre à ce qu'on attendait de moi sur ce rôle. Cut. Mercredi après le casting, blacklisté du directeur de casting parce que je suis trop mauvais. Non, mais il a pas du tout compris le rôle. Hein, là.
En fait, le problème, c'était vraiment pas les manières. C'était vraiment tout ce qui est talent, en fait.
Tout ce qui est genre rapport au talent, en fait. Oh, ouais. C'était ça qu'elle n'allait pas, il n'y avait rien.
Coup dur pour la puce.
La petite puce d'eau noyée. Donc, mais là, le stand-up, l'humour, je suis tous les jours content de monter sur scène, tous les jours j'ai pas l'impression de pas être à ma place, et c'est trop agréable, c'est reposant surtout. Non mais c'est vrai, on est tellement fait d'angoisse que j'ai 1500 angoisses qui arrivent avec le métier de stand-up, hein. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va durer, est-ce que je vais faire des plus grandes salles, est-ce que je vais avoir les moyens de mon ambition, et mais j'ai pas l'angoisse de, j'ai plus cette angoisse de me dire est-ce que je suis à ma place? J'ai plus cette angoisse-là. Toi, tu l'as parfois? De penser que ton propos, c'est pas ce que tu dois dire, que...
Des fois, là, avec l'écriture du nouveau spectacle, il y a un peu ce truc de peut-être le premier, c'était un coup de chance, et peut-être, en fait, j'ai rien à dire, tu vois. Surtout que là, j'avais sorti le roman après le premier spectacle, donc j'étais en mode, je suis vide, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je...
Ah, j'avoue que j'ai cette peur-là aussi pour le deuxième.
À un moment, j'ai plus rien à dire d'intéressant pendant une heure, et c'est long, hein, une heure et demie, là. Et au final, ça va, tu vois, parce qu'il y a quand même des nouveaux trucs qui se créent, de nouvelles réflexions et tout. Mais il y a quand même cette peur de me dire, peut-être j'essaye de... Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir trop vu des gens broder avec du vide, et j'ai pas envie de faire ça, quoi. Donc, peut-être l'angoisse, elle est plutôt là. Ou peut-être juste de me dire, est-ce qu'en fait, je fais tout le temps la même chose, donc les gens, ils vont se lasser.
Ça aussi. Moi, j'ai cette angoisse, peut-être tu l'as, que ouais, vraiment, les gens se disent, oh, le premier, il était super, mais alors le deuxième, oh non, non. T'as vu le premier? Super. T'as vu le deuxième? Oh, c'était nul, hein.
C'est pour ça que ton premier, il est pas ouf.
Oui, comme ça, il n'y a pas trop d'attente pour le deuxième.
C'est fort.
Exactement.
C'est fort.
Oui.
Ouais.
Mais moi, j'ai peur pour toi pour le deuxième. Hein.
Je sais pas.
Parce que ça commence. Enfin, non, je ne vais pas te foutre la pression. Mais...
Ah, Émilie t'a dit.
Non, mais t'inquiète. On ne va pas parler de ça. Mais l'important, c'est que toi, tu es contente, tu es heureuse de ce que tu fais.
Oui.
Bah, c'est l'essentiel. Tu t'amuses?
Oui.
C'est l'essentiel.
Ouais, non,
tu bosses toute seule, toi? T'écris toute seule?
J'écris toute seule, ouais. Sauf les chroniques avec Lisa Delmoitier, mais le spectacle, ouais. Pour moi, le spectacle a un côté un peu trop perso et peut-être aussi d'ego. Peut-être juste il y a de l'ego de dire j'y vais toute seule, ok?
Ouais,
j'ai besoin de personne. Est-ce que des fois t'as peur de t'enfermer tout seul dans des thématiques?
Oui.
Parce que là, par exemple, le seul extrait de toi qu'il y a sur internet, c'est ton Montreux, où tu parles de sexualité et d'homosexualité.
Oui.
Est-ce que t'as peur?
Oui,
de
parce que le spectacle, en plus, il est tellement au-delà de ça.
Ouais, mais c'est ça qui est assez curieux.
Sais. Je sais. Peut-être qu'on sortira un autre extrait qui parle, par exemple, de mon géniteur ou de la ferme. Mais j'ai peur que les gens se disent « Oh, franchement, il va encore nous parler de cul. Oh, il va encore en parler de ces trucs de PD. » Tu sais, il y a un peu un truc comme ça. C'est vrai. Et en même temps... Je veux pas aussi que les gens ils arrivent dans la salle et ils se disent oulala, c'est un spectacle très gay quand même. Tu vois, j'ai aussi envie que les gens ils arrivent et ils savent ce qu'ils vont voir. Sinon c'est violent, tu vois. Et je suis très content parce que de plus en plus, il y a des âges différents qui viennent. Beaucoup d'hétéros. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait lever la main dans une salle et j'étais là, waouh, la moitié quasiment. Ouais, ouais, c'était fou.
Ah oh, putain, comme quoi, t'arrives à la parité.
Ouais,
c'est beau ça.
Allez, des fois, je pense que c'est 70-30. Ouais. Et là, quand j'ai fait lever la main, c'était genre, je sais pas, 65-35, tu vois.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Et du coup, non, j'étais hyper content. Mais c'est vrai que j'ai peur de ce truc. Mais on a toujours peur de s'enfermer dans un truc. Et à force de vouloir plaire à tout le monde, je trouve que des fois, il faut aussi prendre des parts. Enfin, il y a aussi, tu vois, de prendre des angles, de prendre un parti pris. Moi, mon expérience de vie, c'est une expérience de vie homo. Donc, je raconte ma vie par ce prisme. Tu vois, forcément, oui, ça revient parfois. Mais c'est pas pour autant que je pense que ce que je dis ne peut pas être universel. C'est pas parce que je le raconte d'un point de vue homo et que je le dis, que je le raconte d'un point de vue homo, que ça peut pas parler aux hétéros. La preuve, il y a plein de spectacles de meufs ou de mecs hétéros qui, moi, me parlent, et je suis content d'y aller. Et...
Non, mais c'est parce que nous aussi, on a dû s'adapter au fait qu'on avait tellement peu de représentation qu'on a dû aller se retrouver dans les trucs des autres, parce qu'il y avait rien pour nous, quoi.
Ouais, mais quand même, j'ai l'impression que, par exemple, tu vois, le spectacle d'Alex Kominek, eh ben, je me suis vachement retrouvé dedans. Alors que, sur le papier...
Parce que c'est un petit zinzin du cul.
Parce que j'aimerais bien qu'il me fasse le cul, surtout.
Je pense que je vais mettre cette phrase en intro. Salut.
J'aimerais bien qu'Alexandre...
Vous écoutez les gens qui doutent. J'aimerais qu'il me prenne le cul, en fait.
Putain, c'est encore pas avec ce podcast que je vais attirer des nouvelles personnes qui vont penser que je parle pas de cul.
Tu veux faire 10 minutes sur la ferme là dans le podcast.
Mais tout ça pour dire que Alexandre Kominek, que j'ai vu son spectacle 3 ou 4 fois parce que j'ai beaucoup aimé. Et tu vois, c'est un récit de mec hétéro qui a priori on n'a pas grand chose en commun. Et en fait, quand il raconte son parcours, ses voyages, quand il est arrivé dans le club gay, son expérience homo, il y a un truc où je suis content qu'un mec hétéro aborde ça. Et je suis, a priori, je suis pas la cible, mais en fait, je suis la cible. Et j'aimerais bien faire ça aussi avec mon spectacle, que des gens arrivent dans la salle et disent, a priori, je suis pas la cible. Et ils ressortent en mode, oh, en fait, je suis la cible. Mmh. Il m'a grave touché, il a grave parlé de trucs. Et je vois que j'arrive à, les gens se retrouvent vachement dans mon spectacle sur l'affiliation. Sur leur famille, chacun a une famille où il peut se retrouver dans ce que je décris. Et le harcèlement aussi. Parce que beaucoup de gens ont été harcelés, pas du tout forcément parce que homo, pour plein de choses différentes. Et ça, c'est
des moches.
Ouais, parce qu'ils étaient roux aussi, parfois, comme ton chat. Je pense se fait harceler dans la cour des chats. Et parce qu'il est gros aussi, on va pas se mentir. donc voilà, je sais pas, est-ce qu'on s'enferme vraiment? Je crois que c'est à nous d'être vigilants, tu vois, de donner peut-être d'autres choses à voir. Mais aussi, comme je le fais dans le spectacle, à la limite, si mon spectacle tout le long c'était je parlais que de cul et que d'homosexualité, peut-être que je me dirais bon, attends, faut peut-être proposer autre chose là, parce que les gens. Mais comme une fois que les gens sont dans la salle, ils voient que. Finalement...
Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'en général les gens ils vont pas jusque dans la salle, ils s'arrêtent sur internet, ils s'arrêtent à voilà une chronique, un truc. Moi, le nombre de personnes qui me disent que je fais du copier-coller de Blanche Gardin parce que ce qu'ils ont vu c'était mon premier sketch qui est sorti il y a 5 ans, je dis bah ouais, frère.
C'est dur hein, quand ça sort.
Ouais.
Parce que
toi,
ça reste.
Stressé à la sortie de ton truc.
Ouais, ouais. Bah alors, il y a eu évidemment des vagues un peu homophobes, mais la classique de gens. Mais voilà. Mais sinon, il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont trouvé ça cool. J'ai essayé vraiment de pas regarder les commentaires, de m'enlever des chiffres, de est-ce que ça a marché, est-ce que ça a pas marché, parce que après tu te compares et ça fait trop de mal. Et moi, je suis content. Aujourd'hui, je le referai différemment parce que on l'a tourné en novembre et aujourd'hui on est quoi, on est en avril. Je le joue différemment et donc une partie de moi est en mode ah là là, c'est ça qui va être pour toujours sur YouTube et donc les gens ils vont voir que ça. Alors qu'aujourd'hui, je le fais plus trop pareil, mais j'ai fait un peu le deuil de ça. Je suis quand même content. Dans la salle, ça a super bien marché et je suis fier. Je suis fier de ce passage Montreux, mais c'est du stress. Hein, quoi. Enfin, c'est ta vitrine. Donc, faut l'assumer. Et j'espère en tout cas qu'il y en aura d'autres et que parce que pour l'instant il y a qu'un truc. Donc genre les gens ils ont genre soit ils voient et ils aiment pas, ils peuvent pas se dire ouais attends remontre un autre truc. Tu sais genre c'est bon il y a que ça.
Donc, il y a une chronique en télé maintenant.
Non j'ai pas de chronique en télé. Ah, tu veux dire Camille et Images ?
Ouais.
Ouais, mais c'est pas des chroniques. C'est vraiment.
Ah, c'est, juste du...
c'est de l'humeur. Ouais, ouais.
Attends, mais
on fait pas de chroniques.
Ah bon ?
Non.
Ok.
Après, les gens, ils peuvent retrouver les chroniques, la chronique que j'avais fait pour la matinale d'Inter, mais c'était un one-shot.
Okay.
Ou mon interview que j'avais fait pour eux. Je crois que c'est sur YouTube. Mais non, non, en texte écrit, soit tu regardes mes vidéos, une petite vidéo sur Insta, mmh. soit mon montreux sur YouTube.
Ok.
Et les impros aussi que je mets. Sur Insta, c'est un peu ma vitrine, mais en gros truc capté, il y a que Montreux.
Ok. Bah, au moins vu que ça a changé, les gens quand ils sont dans ta salle, ils ont pas l'impression de revoir la même chose.
Exactement.
Cool.
Que toi aussi t'as eu peur de ça, que quand c'est sorti, que tu puisses plus le faire dans ton spectacle parce que les gens se disent ah oh, c'est bon on le connaît.
Non, mais en fait moi je trouve ça assez fourbe parce que les gens ils aiment bien. Des fois, revoir des choses. Et je trouve ça fou, parce que bon, l'humour, ça marche nettement moins qu'en musique ou quoi, parce que si t'as oui. déjà la chute, bah, c'est nul.
Ouais.
Donc, je comprends pas, mais des fois, si je le fais pas, les gens, ils me disent, ah, t'as pas fait ça. Et je suis là, bah, évidemment que je l'ai pas fait. Enfin,
ouais, ouais.
Mais donc, ouais, Emily, c'est assez fou.
Emily, elle m'a dit ça aussi, ouais. Parce que j'avais peur de ça, j'étais là, bon, peut-être faut que j'enlève ça. Et Emily, elle m'a dit, non, non, enfin, tu sais. Les gens sont très contents de voir.
En plus, toi, c'est découpé, non ? C'est, y a des petits bouts oui. Dans tout le oui. spectacle, donc oui. c'est pas un bloc où tu te dis oh, putain, pendant 10 minutes, j'aurais déjà
ouais.
vu quoi.
Ouais.
Ouais. Mais c'est assez dur au début, je trouve, quand on démarre là-dedans, d'arriver à trouver l'équilibre entre je mets des extraits qui sont des bonnes vitrines, donc qui sont du bon matos, mais je mets pas tout mon spectacle sur Internet. Mmh. Parce que moi, avec le premier spectacle, je pense, j'avais 20, quasi 30 minutes qui étaient mises sur Internet, plic-ploc, à différents endroits. Et donc, il restait ouais, 40 minutes que les gens n'avaient pas encore vu. Quoi. Et je trouvais ça vraiment énorme. Donc là, pour le deuxième, je n'ai pas du tout envie de refaire la même chose.
Bah nous, c'est ce qu'on n'a pas eu envie de faire. Ouais. Mm. On a voulu mettre que 9 minutes. Et encore, sur les 9 minutes de Montreux, il y en a 3 que j'ai écrites spécialement. Donc vraiment, dans mon texte, tu retrouves 6 minutes. Mm. Tu vois, les 3 minutes, les 3-4 minutes du début, puis le truc de « je vais être honnête avec toi », qui dure 3 minutes aussi. Et mais ouais, c'était une vraie volonté parce que j'avais trop peur que les gens, ce truc où ils viennent, ils se disent oh là là, on avait tout vu. Mmh. Tu vois ?
Ouais. T'écris beaucoup ? Ou vu que c'est pas nécessaire.
Sur quoi ?
Bah, je sais pas, est-ce que t'écris des nouvelles blagues en se disant pour la suite ? Est-ce que tu taffes ?
Non, pas trop, j'avoue. Bah, là, je t'avoue que je suis un peu accaparé aussi sur le spectacle de Bérangère. Donc j'écris beaucoup avec Bérangère, donc c'est trop bien, ça me permet d'écrire des vannes et en même temps c'est un autre exercice parce que t'écris pas pour toi, tu dois te mettre dans la peau d'une femme hétéro de 40 ans en fait.
Et toi elle veut pas dire des saloperies trop.
Et elle est pas cochonne.
Pas dans le spectacle.
En tout cas pas dans le spectacle à puce. Sinon t'inquiète que c'est pas la dernière. Et du coup ça c'est cool, donc j'écris vachement. J'écris aussi tous les petits scénarios des pastilles avec Esteban. Et j'écris aussi des vannes quand je fais les émissions de Camille et Images. Donc je suis tout le temps un peu en train d'écrire, mais j'écris rien pour l'instant que de trucs où je me dis ah tiens, pour un prochain spectacle et tout.
Et t'as pas ce truc, des fois il y a des gens, moi j'ai pas du tout ça non plus, des fois il y a des gens, tu dirais qu'ils ont toujours besoin d'écrire un truc, besoin de taffer sur un truc.
Mais c'est un truc de fou, parce que des fois je croise des humoristes, ils ont toujours leur petit carnet, ou ils sont toujours sur leur ordi à écrire des trucs alors qu'ils sont leur spectacle. À chaque fois je suis en mode t'écris quoi ? Non mais j'ai pensé à un truc et tout. J'ai dit ok, ouais, moi je suis pas du tout comme ça. Moi j'écris quand j'ai un truc à écrire. Moi déjà pour moi l'écriture c'est un travail dans le sens où faut que je me dise ok là de 14h à 18h j'écris. Je peux pas du tout me dire oh là 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 je vais écrire d'un coup. Je le conçois pas du tout comme ça. Je sais pas toi comment tu...
Moi j'ai toujours du taf à écrire, j'ai toujours des chroniques, un truc, donc j'ai toujours bien un truc à faire. Mais ouais non, sinon si j'ai des vacances pendant 2 mois j'ai rien à faire. Frère, me parle même pas d'écrire.
Ah, mais non, moi non plus.
Non, non, non.
Ah, non, non. J'adore écrire, mais par contre, j'adore ne pas écrire.
Allez, le titre ! J'adore ne pas écrire ! D'ailleurs, j'ai volé toutes mes blagues, aurait-il ajouté.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc réjouissant quand t'as rien à faire. C'est trop bien. Parce qu'entre regarder le spectacle pour capter les impros, du coup te regarder pour t'améliorer, pour changer les trucs. Là en plus en tournée, j'essaye d'écrire à chaque fois une petite intro pour chaque ville. Ça je trouve ça marrant, mais c'est du taf aussi. même si c'est une minute, tu vois, à chaque fois. Et j'aime bien aussi rentrer chez moi, me mettre devant mon épisode de Charmed et me dire allez, ciao, bonsoir, maintenant je suis à San Francisco avec les sœurs Halliwell. Et c'est trop réjouissant. Mais par contre, je suis trop content quand j'allume mon ordi et que je me suis mis dans la tête allez, là, pendant deux heures, tu dois écrire. Tu vois, quand Bérangère, elle me dit hello, là, ce serait bien qu'on taffe sur tel thème, et ben dans ma tête, je suis obligé de me dire ok, alors lundi, 14h-18h, écriture, BK. Mais c'est pas un truc où j'improvise. Mmh. Je me mets devant mon ordi, je me suis préparé mon truc, et hop, comme un peu, je vais au bureau, quoi. Et j'adore aussi, parce que je commence. Au début, tu rechignes un peu. Au début, c'est toujours un peu, tu remets la machine en marche. T'es là, tu lis.
Au début, c'est chiant. Hein.
Au début, et puis après, tu trouves la première vanne, tu trouves le premier angle, et après, c'est parti.
Popopo, je suis un génie, je suis pas un
de
génie, là.
De ouf. De ouf. Puis on a écrit des bonnes vannes, hein, toi-même, tu sais. Hein. J'ai trop hâte que les gens y découvrent ce spectacle.
Ouais. Il est trop bien.
La kiné net, j'ai envie de dire.
La kiné net, putain. Mais c'est fou parce qu'il y a des blagues comme ça. Il y a une même blague faite par Bérangère Krief. Ah ouais. Par Bigard.
Ah bah non mais.
C'est pas la même blague.
Pas la même blague, le même texte, ouais, mais pas la même énergie.
Ouais.
Ah non, c'est une chance qu'elle a. Hein. Elle peut dire plein de trucs que nous on peut pas dire. Hein. Parce que nous on n'est pas Bigard, mais ça rendrait pas mieux dans notre bouche. Hein.
Non, mais elle a une bouche classe.
Elle a une bouche classe. Je sais pas ce que ça doit faire, mais.
Calme-toi. c'est quoi dont t'es le plus fier?
Mes amis.
Merci, non,
c'est vrai.
Belle.
Mais non, c'est vrai. Je suis trop fier de vous. Je suis fier des gens qui m'entourent et tout. Et si j'ai, alors tu vois, j'ai pas de mec. Je suis vraiment seul. Je rentre chez moi. J'ai pas de chat, pas de mec.
Tu veux un chat ?
Et non, merci. Et parce que du coup, t'as le coupé en deux. Ça fait. Eh, si le coupe en deux, ça fait un chat chacun. Hein. Et franchement, je rentre chez moi. Le truc dont je suis trop fier, c'est vraiment vous, mes amis. Je me dis, mais putain, vous êtes trop bien. J'ai trop de chance, vraiment. Et j'en ai beaucoup. Bah, tu l'as vu à mon anniversaire et tout. J'ai vachement de groupes différents, à la fois des gens qui sont comédiens, des gens qui sont humoristes,
des gens qui parlent anglais et qui pensent que t'es né à New York.
Plein de groupes différents, tu vois. C'est ça qui a enrichi mon vie. Donc, ouais, c'est mes amis. Et mon cul aussi. C'est un cul. Mais ça vient après. Mais souvent pas de père. Mes amis voient rarement mon cul.
Ah ouais?
Non. Toi, t'étais l'exception.
Je peux pas finir là-dessus, wesh.
Pardon. T'as une autre question? Toi, c'est quoi dont t'es plus fier? On te l'a déjà posé la question? Dans ton podcast?
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, j'aime bien les trucs de construction, de genre, tu démarres... Enfin, tu vois, l'idée d'avoir démarré il y a 5 ans, en connaissant rien du tout. Et maintenant, je fais mes petits trucs, là. Petit spectacle, petit livre,
d'aujourd'hui,
pesé
dans le game.
Maintenant, putain. Oh là là, je pèse, hein.
Bah non, mais je trouve qu'on se rend jamais compte de ce qu'on a accompli, parce qu'on a toujours le nez sur la feuille, et on voit toujours les étapes d'après, et on voit toujours ceux qui sont devant nous, et ceux qui évoluent. Mais des fois, il faut aussi faire le point, et peu importe le niveau où on est, même si on est à l'échelle 2 sur 25 de notre métier, et ben, je trouve que putain, on est quand même à l'échelle 2, tu vois. Et Dieu sait que toi, t'es pas à l'échelle 2. Donc tu peux être contente de, franchement, de ce que t'as accompli. Et parfois, c'est pas de l'ego ou c'est pas un manque d'humilité, c'est juste d'être reconnaissant envers nous-mêmes du travail qu'on s'est acharné à faire. Parce que si on n'est jamais content de nous, si on n'est jamais content de là où on est, si on pense toujours qu'on n'est rien, qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas réussi à avancer, c'est dur psychologiquement. Des fois, il faut aussi faire le point et se dire, écoute, ok, t'es pas au sommet, bien évidemment, hein, il reste encore beaucoup de chemin, mais putain, t'es plus non plus dans la plaine à galérer, toi. T'as commencé à gravir la montagne. Il faut se le dire, parce que ça nous encourage aussi pour continuer. Donc moi, je te le dis, moi, en plus. En fait, donc là, tu vas mettre un sourire sur ta bouche, tu vas sortir, tu vas t'enlever les doigts du cul, et t'es une gagnante, t'es une winneuse ou t'es pas une winneuse? J'entends pas.
Je suis une winneuse.
C'est bien. T'es quoi?
Je suis une winneuse.
C'est bien.
Merci, Jessie.
Avec plaisir, Fanny Ruette.
Putain, le cassos, quoi. Le cassos.
J'espère que l'épisode vous a plu. En description, vous trouverez tous les liens pour suivre GC sur les réseaux et aller le voir en spectacle. Il est actuellement tourné en France et reprendra à Paris en septembre au Petit Palais des Glaces. Prochain épisode dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, voire à laisser des étoiles, des commentaires. Ça aide beaucoup pour le référencement. Et puis évidemment, n'hésitez pas à me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet pour être tenu au courant de la suite. Des bisous. Comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'intrépide Maxime Moitieux.